Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Depuis plusieurs émissions, nous nous demandons quelle est la place du chrétien dans la société et quelle influence peut-il y exercer?
Nous allons aborder ces thèmes avec l'aide de notre invité Robert. Nous sommes heureux de l'accueillir parmi nous. Bonjour Robert.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Quel va être notre sujet de discussion pour aujourd'hui?
Nous allons aborder les questions suivantes. Est-ce que le chrétien peut participer à des mouvements de protestation tels que les grèves et les manifestations? L'enfant de Dieu a-t-il le droit d'exprimer son mécontentement lorsqu'il n'est pas d'accord avec les décisions des autorités?
Ce sujet semble intéressant et pertinent. Par où voulez-vous commencer?
Comme point de départ, je voudrais expliquer que le chrétien doit se soumettre aux autorités établies par l'Éternel, le Dieu souverain. Nous pouvons lire, par exemple, les conseils de l'apôtre Paul, trouvés dans sa lettre à l'Église de Rome au chapitre 13, versets 1 à 7.
Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont attirés, car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l'autorité? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent.
Paul déclare ainsi que le chrétien doit se soumettre aux autorités. D'ailleurs, rappelons-le, les chrétiens de Rome vivaient sous un régime plutôt tyrannique, qui par moments s'en prenait aux chrétiens de façon injuste et violente. Ces chrétiens avaient matière à se plaindre, et pourtant, Paul les encourage à rester soumis. Devons-nous en conclure qu'aujourd'hui, le chrétien ne devrait pas participer au mouvement de protestation, ni se plaindre aux autorités?
Je vais apporter une réponse un peu plus nuancée. Je voudrais affirmer que l'on peut rester soumis à l'État ou aux autorités mises en place, tout en exprimant parfois son mécontentement sur la politique adoptée. Permettez-moi de m'expliquer davantage.
Je vous en prie.
Dans la plupart des pays, les États permettent la liberté d'expression et les divers mouvements de protestation. De nos jours, il est donc légitime et permis d'exprimer son mécontentement, sauf dans certains pays où les lois demeurent plus restrictives. Si donc la liberté d'expression est permise, nous pouvons y avoir recours, à condition toutefois de respecter les limites établies par les lois. De telles participations n'expriment pas une quelconque insoumission, mais représentent plutôt une voie légitime pour influencer les autorités à rechercher ce qui est bien. Cependant, je voudrais aussi souligner que nos protestations devraient respecter les limites bibliques prescrites.
Et quelles sont-elles?
Tout d'abord, comme vous venez d'évoquer le cas précis des manifestations, je voudrais préciser que j'hésiterai beaucoup à y participer et que je le ferai seulement lorsque toutes les autres voies possibles pour exprimer mon mécontentement n'auront rien apporté de satisfaisant.
Et pourquoi craignez-vous les manifestations publiques?
À mon avis, un chrétien peut participer aux manifestations publiques s'il est certain qu'elles seront menées de façon paisible et que la cause défendue est juste et correspond à l'enseignement biblique de la justice. Malheureusement, de telles manifestations sont souvent chargées de tant d'émotions qu'il est difficile de garantir qu'elles ne dériveront pas vers la violence. Or, je suis convaincu qu'un chrétien ne devrait pas s'associer à un mouvement de protestation qui encourage la violence ou la désobéissance civique, juste pour parvenir à ses propres fins. Une manifestation peut commencer paisiblement, puis il peut devenir difficile de maîtriser la suite des événements, et parfois des éléments malfaisants s'infiltrent pour manipuler les foules et les conduire à des débordements violents. Or, le chrétien doit se distinguer du monde par son approche non violente et conciliante des conflits et des problèmes qui se présentent à lui. Pour cette raison, il doit beaucoup réfléchir avant de se joindre à de quelconques manifestations.
Vous semblez alors plutôt fermer la porte à ce genre de participation. Mais comment le chrétien peut-il donc exprimer son mécontentement ?
Le chrétien peut se servir des moyens de communication mis à sa disposition afin d'exprimer ses avis et ses soucis aux autorités compétentes. Il peut par exemple écrire aux responsables qui gèrent les problèmes dont il est question. Les églises peuvent aussi choisir des représentants pour aller soumettre leur mécontentement aux autorités et discuter d'éventuelles solutions. Les chrétiens, comme les églises, peuvent créer des associations dont l'objectif est de faire valoir une cause en particulier et d'encourager les autorités à trouver une solution appropriée. Ils peuvent chercher à avoir accès aux médias afin de publier leur point de vue et d'exercer ainsi une forme de pression sur les autorités en question. Tout ceci devrait être fait en vue de créer un dialogue et de négocier une issue favorable allant dans le sens biblique. J'ajouterai aussi qu'il est important de respecter les limites établies par les lois de son pays, car dans certaines régions du monde, la liberté d'expression n'est pas forcément admise ou appliquée.
Ce sont de bonnes idées, mais que faire si les autorités refusent d'écouter, rejettent tout dialogue et persistent à poursuivre une politique inquiétante?
Si toutes les tentatives paisibles mises en œuvre dans l'espoir d'influencer les autorités échouent, la tentation d'avoir recours à la désobéissance civique ou à la violence peut se faire sentir. Le chrétien ne devrait pas emprunter de tels chemins qui ont le potentiel d'endurcir les conflits et d'engendrer des cercles vicieux de violence, de malheur et de souffrance. Si le chrétien veut se distinguer du monde, il doit chercher à sortir de ces schémas de violence et de vengeance. Que faire alors? Si toutes les portes en vue d'une protestation paisible et conciliante se ferment, gardons alors les conseils de l'apôtre Pierre dans nos cœurs, qui dans sa première épître écrit « Il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. » Et puis plus tard il ajoute « Que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'ils continuent à faire le bien. »
Merci Robert. Merci de nous avoir montré qu'en tant que citoyens chrétiens, nous avons le droit d'exprimer notre mécontentement auprès des autorités, mais toujours avec l'objectif de les influencer vers des politiques plus justes et solidaires. Nos protestations doivent en effet revêtir un caractère paisible et conciliant. Mais si malgré toutes nos tentatives, aucune situation ne change, nous devons nous en remettre à Dieu, qui est le maître de tout et qui voit le contexte des hommes. En son temps, il agira.
Merci Yann pour ce résumé. Nous espérons que nos amis auditeurs tireront bénéfice de ces exhortations, quelle que soit la situation à laquelle ils sont confrontés. Au revoir et à la prochaine.
Merci Robert pour vos enseignements clairs et instructifs sur ce thème si important. Nous allons à présent passer à notre courte méditation biblique, dont le sujet porte sur le fruit de l'esprit.
Nous nous pencherons plus exactement sur quelques paroles bien connues, écrites par l'apôtre Paul dans sa lettre à l'église de Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses.
Nous avons appris que le fruit de l'Esprit dépeint le caractère de Jésus-Christ et qu'il présente les qualités divines auxquelles tout chrétien doit aspirer. Notre invité Étienne va désormais réfléchir sur chacune de ces qualités énumérées par Paul. Il nous montrera dans un premier temps la façon dont Jésus demeure pour nous un exemple à travers elles, et ensuite la manière dont le chrétien peut les reproduire. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième qualité mentionnée par Paul. Il s'agit de la joie. Et je cède tout de suite la parole à Étienne.
Merci Yann pour cette introduction et bonjour à tous. La joie n'est pas forcément une qualité que l'on attribue à Jésus. En lisant les évangiles, en effet, nous sommes saisis par les récits relatant les durs labeurs liés à son ministère, et les conflits avec les autorités religieuses qui finirent par aboutir à sa mort sur la croix. Humainement parlant, tous ces événements semblent injustes et tragiques. Nous pouvons en conclure que Jésus en était affligé. Mais en examinant les faits, nous réalisons qu'il en était tout autrement. Pour expliquer cela, nous allons nous pencher sur trois paraboles racontées par Jésus en Luc au chapitre 15. Dans la première, nous rencontrons un berger qui avait perdu une brebis. Lorsqu'il la retrouve, il déclare « Réjouissez-vous avec moi !» Nous rencontrons ensuite une femme qui ne trouve plus sa pièce d'argent, et lorsqu'elle la retrouve, elle aussi s'exclame « Réjouissez-vous avec moi !» Et enfin, nous rencontrons un homme qui avait perdu son fils. Ce dernier était parti loin de la maison de son père et avait sombré dans la débauche. Mais, lorsqu'il revient chez lui, son père déclare aussi « Réjouissez-vous avec moi !» Qu'en déduire ? Jésus nous invite à partager sa joie, car avec lui, le salut est arrivé. Autrement dit, malgré ses labeurs, ses privations, Jésus éprouvait beaucoup de joie. Malgré les conflits et la souffrance, il se réjouissait. Confronté à la croix, sa joie était sans pareil. Mais d'où provenait cette joie qui lui permettait d'endurer, de surmonter la plus dure des épreuves ? Cette joie était issue de sa relation avec Dieu son Père. Jésus connaissait le Père, il marchait intimement avec lui. Une connaissance vraie et profonde de Dieu ne peut que produire joie et bonheur. De plus, Jésus se réjouissait de voir son Dieu agir à travers son ministère et son sacrifice, afin d'accorder aux hommes et aux femmes le salut dont il avait besoin, pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. Jésus œuvrait avec son Père dans l'accomplissement de ses desseins. Il répandait le bien et il s'en réjouissait. Oui, j'en suis certain, la joie rayonnait sur son visage aussi bien que l'amour.
Merci Étienne. Nous vous retrouverons la prochaine fois pour une méditation sur la place de la joie dans la vie du chrétien.
Sur ce, nous devons terminer notre émission. Et nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.